Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu, mais c'est encore faible. Hein? On a pris le petit déjeuner, on a un beau soleil. C'est assez chaud ici dans la salle. D'ailleurs, j'ai même enlevé mon pull. Alors, bonjour à tous. Voilà, bonjour. Nous sommes ce matin pour louer notre Seigneur. Amen. Nous sommes là ce matin pour louer, pour glorifier, pour exalter notre Seigneur. Et ce matin, je voulais partager avec vous une réflexion qui me prend depuis un petit moment. Et je voulais parler sur la solitude. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, la solitude, dans un moment dans votre vie. Moi, j'ai vécu ça de façon très intense. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais rien de français. Alors, à l'école, il n'y avait que des Américains, je ne parlais rien en anglais. Et j'avais mon épouse qui parlait beaucoup avec moi et que moi, j'ai parlé beaucoup avec elle. Mais on était tout seuls, tous les deux. Et donc, on a vécu un moment de solitude. Et pour moi, c'était un moment diviseur dans ma vie. Je peux dire que je suis quelqu'un avant et quelqu'un après. Parce que la solitude, parfois, elle peut être vécue de façon extrêmement difficile. Et c'est cette thématique que je veux apporter par ce texte de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16, dans l'expérience que Dieu va nous apporter dans la guérison de ces lépreux, mais aussi dans ce que Jésus va faire. Je vous invite alors à lire avec moi dans cette version courante, la nouvelle version courante, qui dit « Alors que Jésus s'est trouvé dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui, face contre terre, et le pria, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus entendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre le quitta. Jésus lui donna cet ordre, « Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » Cependant, la réputation de Jésus s'est répandue de plus en plus. Une foule de gens s'est rassemblée pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retira dans des endroits déserts où il priait. Faisons comme Jésus, prions pour cette parole. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous voulons ce matin, Père, apprendre avec ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous guider, à moi et à chacun qui est là, Seigneur, à la compréhension, mais pas qu'à la compréhension, à la pratique de ta volonté dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole et à la saisir. Nous te prions, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui vont lire le repère, j'ai déjà écrit sur ces textes. Donc je ne vais pas m'y tenir dans les détails que j'ai parlé dans le repère, mais je vais vous donner un contexte de cette parole. Cette parole, ce récit, il s'y passe dans un moment tournant dans l'évangile de Luc. Avant cet événement, Jésus, il était quelqu'un qui était un peu méconnu. Il commençait à se faire célèbre dans la région pour son enseignement, pour sa guérison, mais n'était pas encore. C'est tournant parce qu'à partir de ces deux événements, celui-ci et une autre guérison qu'il va faire, Jésus, il va commencer à être opposé, à recevoir l'opposition des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi. Donc c'est un moment tournant dans l'évangile de Luc. Mais plus encore, nous avons face deux solitudes qui sont très importantes qu'on comprenne. Le premier, c'est la solitude du malade. La lèpre, comme vous savez, en Lévitique chapitre 13 et 14, elle amenait la personne à être exclue de la société. D'un côté, pour une question de santé publique, okay, ça a été contagieux, donc ils ont besoin de l'isoler. Mais d'un autre côté, par la loi cérimoniale, elle était empêchée d'aller vers le Seigneur, elle était considérée comme quelqu'un impur, un intouchable, quelqu'un qui perdait du jour au lendemain la possibilité d'être avec ses semblables. Donc on voit qu'il y a une façon de solitude ici qui est extérieure. C'est quelqu'un qui n'avait pas condition d'être en relation avec les autres. C'est pour ça que j'évoquais ma situation quand je suis arrivé en France, parce qu'en quelque part, je me trouve dans cette parole. Quand on n'a pas la condition de communiquer, de parler, on se sent seul. Et en plus, quand j'essaye de parler, les gens rigolaient. Et rigolent encore. Mais aujourd'hui, ça va. La solitude pour cet homme, elle était extrême. En venant à Jésus, en cherchant la volonté du Père, et comme j'ai dit dans le repère, c'est très intéressant parce qu'il ne vient pas toucher, comme la femme qui touche cachée, qui essaye de rompre la limite, cherche la volonté de Dieu malgré les interdits qu'il avait. Non, cet homme, il vient, il s'abaisse devant le Seigneur. Il est en acte d'humiliation. Il demande à Dieu, voilà Seigneur, si tu veux. La volonté du Père, la volonté du Fils, si tu veux, purifie-moi. Et je trouve extraordinaire parce que dans l'action de Jésus, on voit l'action de Dieu qui est au-delà de ce récit. Dieu le touche et le purifie. Dieu le touche et le purifie parce que nous avons un Dieu qui nous accueille tel que nous sommes. Jésus est venu pour tous ceux qui ont besoin de lui, pour tous ceux qui se sentent seuls, pour tous ceux qui ont besoin de sa présence. Il le purifie dans son corps, dans sa maladie, mais il le rend aussi possible à la relation vis-à-vis de l'autre. Il brise ce qui séparait cet homme. Il brise ce qui rendait cet homme malade dans son cœur, la solitude. Mais je ne veux pas m'étenir à l'expérience de l'homme, même si je pourrais dire beaucoup plus. Je veux aller sur l'idée, sur la solitude de Jésus. Parce que j'ai dit tout à l'heure, comme était écrit au départ, la bonne solitude. Jésus nous enseigne dans ses récits qu'il y a une bonne solitude. Verset 15 et verset 16, il nous a dit cependant, la réputation de Jésus s'est répandue de plus en plus, une foule de gens s'est rassemblée. Il le cherchait pour être guéri, mais Jésus s'est retiré dans les endroits déserts où il priait. Je me suis déparé avec une image. Elle est un peu floue à cause de la lumière, mais c'est une image de Martin Luther King, qui était à genoux avec toutes les personnes qui venaient protester. Il cherchait la face du Seigneur. Il était là avec ses hommes, il priait. Je pense que Jésus nous enseigne dans ces textes quelque chose d'utile et important. La première chose que je veux remarquer, c'est que la solitude prédispose le cœur à l'habitude de la prière. Luc a construit son récit en soulignant à tous ses lecteurs que Jésus avait l'expérience de l'habitude de prier. À plusieurs reprises, revient sur l'évangile de Luc que Jésus était là en pleine action Mais la priorité de Jésus n'était pas forcément notre priorité. La priorité de Jésus n'était pas à répondre à chaque besoin. La priorité de Jésus, c'était à faire la volonté du Père. Et il va montrer cette priorité dans l'habitude de la prière. Regarde, il laisse une foule de gens qui l'ont cherché pour apprendre et pour être guéri. Il les laisse pour partir et être face à face à Dieu. Un Ecclésiaste, il va dire, il y a du temps à toutes les choses. Et une chose qui se passe dans mon cœur, et je sais que ce n'est pas que moi, et c'est pour ça que j'apporte aujourd'hui, c'est que on veut sauver le monde. On veut tout faire. On veut être le mari parfait. On veut être l'employé parfait. On veut être le conducteur parfait. Pas tout à fait ça, parfois. Hein. On veut être, voilà, on veut tout faire. Et on veut sauver le monde. Ce que Jésus avait à faire, ce n'était pas plus important que la relation qu'il avait avec le Père. Et Jésus va montrer ça dans l'habitude qu'il avait de tout laisser, de partir et de prier. Deuxième chose que je vais remarquer ici dans ce texte, c'est que la solitude protège nos cœurs de la peur que nous pouvons avoir. Le temps des prières de Jésus nous surprend lorsqu'ils sont renommés atteint le sommet. Lorsque tous les gens viennent pour prier avec lui, en général, on fait exactement le contraire. C'est le moment du succès où on laisse de prier. Jésus va nous montrer que ce n'est pas le succès ou la difficulté, les problèmes, les souffrances, le compteur qui va nous faire prier plus ou prier moins. Jésus nous montre que dans le succès, dans le moment où son ministère est rayonnant, c'est là qu'il va s'arrêter pour prier. C'est dans le moment du succès que nous devons créer l'habitude de prier. Cela ne remet pas en cause l'idée que nous devons prier et intensifier parfois notre prière dans la difficulté. Mais c'est la question de qu'est-ce que nous faisons quand tout va bien? Qu'est-ce que nous faisons quand notre famille va bien? Qu'est-ce que nous faisons quand dans notre travail tout se passe bien? Qu'est-ce que nous faisons quand nous n'avons pas de problèmes? Habituellement, on baisse les gardes. Habituellement, on se permet de manquer à quelques prières. On dit à la lecture biblique, on te laisse un peu de côté parce que j'ai beaucoup de choses à faire et tout va bien, ma famille est contente, le travail, ça se passe bien. C'est quelque chose d'humain. Mais ça révèle où est notre vision, où nous regardons. Ici, Jésus nous montre que son regard, il est fixé en Dieu. Ce n'est pas le succès de son ministère ou la défaite. C'est Dieu. Et indépendant de ce qu'il arrive, il est avec Dieu. Et il nous enseigne ça pour notre vie. Nous ne pouvons pas être amenés dans les vagues du moment. Nous devons nous fixer vers le Seigneur. Troisième chose que je voulais remarquer, c'est que la solitude révèle, entre guillemets, l'agenda de notre cœur. Qu'est-ce que c'est le plus important pour nous? Qu'est-ce que c'est le plus important pour notre vie? On dit souvent, Dieu d'abord, après, famille, troisième, église, travail, on n'est pas trop d'accord, mais bon, voilà, travail, église, travail. Bon, on met les priorités. Et je vous demande, est-ce que nos priorités reflètent le temps que nous donnons à elles? Est-ce que nos prières sont vraiment, notre relation avec Dieu est vraiment au centre de notre priorité? Ou est-ce que ça, c'est une façon de dire? En étudiant et en lisant pour ce matin, je me suis retourné vers un livre je ne sais pas comment on dit ça en français, où il va parler de la puissance de la prière. Regarde ce qu'il va dire. Je vais lire avec vous. Nous sommes constamment engagés, sinon obsédés, à recevoir des nouvelles méthodes, des nouveaux plans, des nouvelles organisations pour faire progresser l'Église et assurer la diffusion et l'efficacité de l'Évangile. Cette direction odierne, c'est-à-dire qui ne regarde que le temps présent, qui ne voit pas après, mais qui voit que le point, voilà, a la tendance à perdre de vue l'homme ou à le noyer dans le plan ou l'organisation. Le plan de Dieu est d'utiliser l'homme et de l'utiliser beaucoup plus que tout. Les hommes sont la méthode de Dieu. L'Église cherche la meilleure méthode, Dieu cherche les meilleurs hommes. Cette citation me parle, non parce que nous ne devons pas chercher des méthodes, il n'est pas contre ça dans le contexte général, mais ce qu'il nous dit, c'est que nous ne devons pas perdre quelle est la priorité de notre vie. Quelle est la priorité pour que les choses marchent dans notre vie? Quelle est la priorité? Et la priorité doit être la relation avec Dieu, la prière, la méditation de sa parole. C'est là que nous devons agir. Quatrième point que je voulais soulever aussi, c'est la solitude prépare nos cœurs à des jours de solitude. Jésus savait que la foule pouvait le chercher pour des raisons bonnes ou des mauvaises raisons. Cependant, il savait que la renommée et le succès induisaient l'antagonisme. La guérison de lépreux, comme j'ai dit tout à l'heure, la guérison des paralytiques devient un scénario de transition pour Luc, après laquelle il va nous montrer l'opposition qui va venir au ministère de Jésus et qui va l'amener jusqu'à la croix. Cette opposition qui aboutira au complot pour tuer Jésus va même séduire la foule qui suivait le Seigneur. N'oublions pas l'image de Jésus dans le jardin avant la crucifixion. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus, à ce moment-là, il était devant le Père. Et qu'est-ce que faisaient ses disciples? Ils luttaient contre le sommeil pour essayer d'être devant le Père. Jésus va chercher la présence de Dieu pour affronter les défis que la solitude va l'imposer. Quand il va citer ces fameux psaumes 22, « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il sait qu'il n'est pas tout seul. Même si la sensation d'être abandonné pour toutes les personnes, même si la sensation d'être tué et d'être trahi s'impose devant lui, suite à cette prière, il va crier, « Seigneur, je te donne mon esprit. » Jésus était prêt. Et il était prêt parce que pendant toute sa vie, ce n'est pas que dans la difficulté qu'il a cherché le Seigneur, mais dans toute sa vie, il a cherché la présence de Dieu. Je finis ce moment, cette parole, par cette question. Qu'avez-vous fait pour promouvoir ce moment de solitude devant le Père dans ta vie? Quel est le temps que vous avez séparé dans votre agenda pour prendre du moment avec le Seigneur, pour permettre à Dieu d'être là avec vous dans le silence? Bien sûr, nous avons tous des moments de crise. On a tous des moments où nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute plus. Mais ces moments, nous allons réussir à le surmonter. Parce que dans les moments où Dieu nous écoute, dans les moments où les guérisons arrivent, dans les moments où les choses sont positives dans notre vie, nous avons maintenu une vie pratique devant le Seigneur. Je finis par une image que j'ai eue. Vous savez, ces petites messages qui nous envoient nos papis, nos mamies, des belles phrases, des images et tout ça. Et j'ai quelques tantes qui m'envoient aussi quelques petites méditations. Et il y a deux images qu'elle a envoyées. Un, c'était deux pas dans la sable. Et à un moment donné, ces deux pas deviennent un seul. Et cette petite phrase qui disait, il y a des moments où nous marchons à côté de Dieu, et il y a des moments où Dieu nous tient dans ses bras, et c'est lui qui nous porte. Cet matin, je vous invite, tant que vous pouvez, marcher à côté de Dieu, pour que dans le moment des difficultés, Dieu puisse vous amener dans ses bras. Et on est chute. Prions. Seigneur notre Père, j'ai fini par cette question que faisons-nous pour promouvoir ces moments de solitude devant toi. Cette question qui est pour chacun de nous qui sommes là ce matin. Pour nous, doit nous mettre en défi, Seigneur, d'une vie nouvelle, d'une vie différente, d'une vie, Seigneur, qui est devant toi, Seigneur. C'est vrai, Père, notre frère, au début de son intervention, nous a dit, nous avons le salut en toi. C'est vrai, Seigneur, nous avons reçu par ta puissance une nouvelle vie. C'est vrai, Seigneur, nous avons la certitude de pouvoir un jour assiéger à côté de toi au ciel. Mais Père, ta parole aussi nous dit que tant que nous sommes sur terre, nous aurons des tribulations et des souffrances. Et dans cette vie que tu nous as donnée, Seigneur, le seul moyen de résister, de se maintenir debout, c'est de chercher constamment ta face. Et le Christ qui nous a enseigné, Seigneur, à faire ça, nous a donné l'exemple dans sa vie. Jésus était constamment devant toi et je veux ce matin, Seigneur, dans cette réflexion, aussi, Seigneur, mettre ma vie devant toi et la vie de chacun et chacune qui est là, Seigneur. C'est toi qui nous connais. Alors réveille-nous, Seigneur. À ceux qui dorment, réveille-nous, Seigneur. Qu'on puisse être dans ta présence, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.